Place publique.
Dans le monde des médias, vous connaissez la radio, la télé, les journaux, papier, internet. Et si la bande dessinée rentrait elle aussi dans ce monde des médias d'information, on va se poser la question dans Place publique à l'occasion de l'ouverture de Delémont BD ce soir. La BD documentaire, reportage est à la mode, décryptage avec le directeur artistique de Delémont BD et un auteur, Simon Lamouret. Un phénomène de société encore trop souvent passé sous silence, celui des violences conjugales. Les victimes peinent à parler. Certains chiffres sont préoccupants. On en parlera avec la chef de l'Office de la politique familiale et de l'égalité du canton de Neuchâtel et une avocate spécialisée. Et puis, comment passer à côté de Roland Garros? Les Suisses se sont encore illustrés porte d'Auteuil ces 10 derniers jours. Timea Bachinski en demi-finale, Stan Wawrinka qualifié en finale. Parcours remarquable avec seulement 3 athlètes helvètes au début du tournoi. On reçoit Alessandro Greco, le directeur du sport d'élite à Swiss Tennis, pour expliquer cet ADN de champion. Bienvenue dans Place publique.
Jusqu'à 19h, Place publique. Jérémy Pignard.
Bonsoir à toutes et à tous. Delémont en effervescence ce week-end, capitale jurassienne mais aussi capitale de la bande dessinée. Dès ce soir avec l'ouverture de Delémont BD, on ne pouvait pas passer à côté non plus et on va s'intéresser à un courant en plein essor actuellement. C'est la BD documentaire, la BD reportage, une bande dessinée qui devient presque un médiateur d'information. Et pour décrypter ce phénomène, on accueille Philippe Duvanel, le directeur artistique de Delémont BD. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes venu avec un auteur de BD documentaire, justement le français Simon Lamouret. Bonsoir.
Bonsoir.
Philippe Duvanel, je le disais, on a le sentiment que la BD docu, la BD reportage a le vent en poupe. Vous confirmez que c'est l'une, voire la tendance du moment ?
C'est un petit peu la tendance du moment, effectivement. Ça représente aujourd'hui 20% de la production de bande dessinée. Et puis c'est surtout révélé par la démarche d'un magazine qui s'appelle 21 et qui a lancé aussi un autre magazine qui s'appelle La Revue Dessinée, qui a donné naissance à un troisième magazine qui est Topo. Ce sont des périodiques qui racontent le monde, l'actualité et le reportage en bande dessinée.
Alors justement, Simon Lavouret, vous êtes un exemple de ce courant avec notamment votre album Bangalore, ville de l'Inde où vous vivez, vous travaillez. Quelle a été votre démarche, cette envie finalement de raconter la vie d'une ville ? De quoi c'est parti cette envie justement de...
En fait, moi j'habitais à Bangalore à partir de 2013 et j'ai essayé de comprendre et de décrypter cette ville en tant qu'habitant. Et bien évidemment, en étant auteur de bande dessinée, ça passe pour mon travail. Et une pratique du dessin au départ qui m'a conduit ensuite à m'intéresser, à développer des sujets liés à l'observation à travers la bande dessinée.
Ça veut dire que dans ce livre, vous écrivez, vous dessinez des choses que vous avez vues réellement ?
Oui, c'est exclusivement des choses que j'ai vues, dont j'ai été témoin, des choses que je donne à voir au lecteur et des choses que j'analyse de façon un peu plus construite. Et le dessin, la pratique du dessin m'a aussi permis de comprendre, me mettre en position d'observant et du coup de comprendre, de décrypter les choses d'une manière différente que par la lecture ou une pratique intellectuelle liée plus à la recherche.
Philippe Duvanel, c'est vrai qu'on a souvent cette idée de la BD divertissement, la BD fiction. Là, on est dans du réel, on est presque dans de l'information finalement.
On est clairement dans l'information. La bande dessinée peut vraiment être elle est un média qui peut clairement informer. Je veux dire, au-delà de la pédagogie que quelquefois on a entendue par rapport à la bande dessinée, on disait, mais voilà, on va faire une bande dessinée pour parler d'un sujet compliqué aux enfants. Non, la bande dessinée, c'est un média à part entière, c'est un art à part entière qui peut raconter le monde de façon exceptionnelle, qui peut aller bien au-delà de la photo, du cinéma ou même de l'écriture. Moi, je la défends vraiment en tant que telle parce qu'on l'a souvent considérée comme effectivement du divertissement ou une sous-culture ou un art mineur. Au contraire, elle est réellement un passeur incroyable.
Alors on a d'un côté le monde imaginaire d'un Régis Loisel par exemple, d'un autre on a parfois même de la photographie dans la BD. Finalement, Simon Lamouret, est-ce que c'est le rôle de la bande dessinée, en tout cas vous avez eu ce parti pris de montrer des choses qui existent réellement?
Oui, après en tant qu'auteur on a différentes sensibilités et différentes manières de raconter. Clairement il y a des, on parle de Régis Loisel, des gens qui sont capables de créer des mondes à l'abri de leur atelier. Moi j'ai toujours été interrogé et stimulé par le monde extérieur. Et effectivement, ça nourrit ma pratique.
Vous vous considérez comme un journaliste, presque, Simon Lamouret, quand vous faites cet exercice-là ?
Pas exactement. C'est une question intéressante. Même dans la bande dessinée liée au réel, il y a plusieurs courants. Il y a des personnes comme Joe Sacco qui ont une démarche vraiment purement journalistique, qui ont des cartes de presse, qui vont sur des zones de conflit, qui font vraiment un travail de journalisme avec tous les codes du journalisme qu'on connaît, l'interview, la recherche. Moi, c'est plus une j'essaye de montrer une vision un peu plus personnelle du réel et de ce qui m'entoure. à travers une démarche plutôt poétique et moins informative. Mais ça n'en reste pas moins lié au réel. Et à ce titre-là, on peut parler de journalisme.
Philippe Dumanel, j'allais vous poser la question, est-ce que la BD a vocation à devenir un média à part entière? Vous me dites presque, elle l'est aujourd'hui.
Elle l'est clairement, oui, tout à fait.
c'est vraiment, voilà, pourtant, pour le grand public, elle n'a pas l'impression que la bande dessinée est un média d'information dans lequel on peut aller trouver du reportage. Ça reste encore à diffuser, cette image-là?
Oui, ça reste à diffuser. Il y a toujours cet a priori qui est difficile à battre, très clairement. Mais effectivement, je pense qu'il faut la considérer en tant que telle. À une heure aussi où finalement les médias papier disparaissent, en fait, où tout se pose sur les écrans, je pense qu'elle devient encore plus intéressante et plus pertinente, en fait.
C'est surtout le contexte géopolitique actuellement tendu hein, dans le monde qui inspire les auteurs. On pense au terrorisme, à la problématique des réfugiés, peut-être même la montée des nationalismes et des extrêmes. Tout ça, ça a vocation aujourd'hui à trouver sa place dans des scénarios.
Oui, en plus on peut parler de la dernière campagne présidentielle française où finalement il y a eu un ouvrage de bédéistes et de journalistes sur Marine Le Pen et c'était assez effrayant à lire et je pense qu'elle peut vraiment servir cette cause-là parce que tout d'un coup on change de domaine, c'est plus de l'écriture, c'est plus de l'information qu'on voit de façon très courte comme dans un journal comme 20 minutes, on a vraiment un sujet de réflexion et on a évidemment l'apport généralement de l'auteur mais qui doit quand même garder, enfin c'est le cas de Simon Lamouret qu'on expose au festival, il est rentré dans une observation sans nier forcément peut-être l'envie qu'il avait de raconter des histoires qu'il ressentait par rapport à cette observation-là.
Simon Lamouret, dans Bangalore, justement, vous racontez des scènes du quotidien classique ou alors il y a aussi des conflits, des choses politiques dont vous vous saisissez?
J'essaie vraiment d'aborder les questions politiques et sociétales de l'Inde à travers des chroniques quotidiennes. Donc j'ai envie de dire les deux.
Il y a énormément hein, de bandes dessinées qui s'inspirent de tout ça. Je vais vous en donner quelques-unes parce que c'est une liste de notre spécialiste BD, Léon Béret. Alors, oui. Déjà, par exemple, à Delémont BD, ce week-end, il y aura Pitch Comment, Souvenir de Damas. C'est un petit peu un carnet de voyage, mais dans lequel on voit aussi des tranches de vie, finalement, de la capitale syrienne. On peut citer Guy Delisle, Chronique de Jérusalem, également, un reportage sur la vie là-bas, un des pionniers pour ce qui est de raconter de vraies histoires dans les BD. Sur Pyongyang également, je crois qu'il a aussi écrit des choses. Patrick Chapat, qui a une exposition à Delémont BD dans les couloirs de la mort.
Oui.
On a également Guibert Lefebvre, le photographe, un mélange de BD, de photos, dessins sur l'Afghanistan. Persepolis également. Et puis vous avez parlé de Joe Sacco, justement, Simon Lamouret, qui a écrit sur Gaza, la Palestine, le Liban, aussi un des pionniers du style. Hein.
Tout à fait. Puis on a d'autres, on n'a pas forcément que des sujets graves ou finalement des conflits sociaux, on peut aussi regarder d'autres sujets. C'est le cas d'Étienne Davodeau, qui lui est un auteur que je considérais comme militant et qui a regardé le travail d'un viticulteur qui travaille en biodynamie et c'est tout à fait passionnant.
Simon Lamouret, dans la presse, on trouve souvent des dessins BD mais plutôt humoristiques. Vous pensez qu'on va évoluer justement à un moment vers du dessin presque reportage finalement dans nos journaux papier?
C'est déjà le cas, le dessin, l'illustration dans les médias évolue en même temps que les magazines. Philippe évoquait le journal La Revue 21 et ses différentes branches. Là, c'est vraiment du journalisme d'investigation, donc ça appelle peut-être un dessin un peu plus poussé, grave, moins dans l'instantané.
Philippe Dumanel, une dernière question. On a les jeunes qui ont parfois du mal à se saisir du journal papier, de s'informer aujourd'hui. La BD, ça peut être un moyen de les amener justement, peut-être plus facilement, d'une manière un peu détournée à ces problématiques actuelles.
Espérons-le. Après, le constat qu'on peut faire aujourd'hui dans l'évolution de la société, c'est que l'écran a pas seulement remplacé le papier, donc il faudra beaucoup se battre.
Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Messieurs Philippe Dumanel, Simon Lamouret, on vous libère parce que l'inauguration de Delémont BD, c'est ce soir évidemment à 19h. Très bon festival, très bon week-end. On pourra retrouver beaucoup de BD de ce courant-là durant la manifestation ce week-end.
Oui, et puis je vous encourage à visiter l'exposition de Simon Lamouret et de Patrick Chapat et Anne-Fadik Winman sur les couloirs de la mort. C'est sur l'attente des condamnés à mort dans les prisons américaines, des condamnés à mort qui attendent plus de 20 à 30 ans leur exécution. C'est dramatique.
Très bien, donc allez y faire un tour ce week-end. En plus, il fera sans doute beau, donc ça sera agréable. Dans un instant, on va parler des violences conjugales. Le canton de Berne a publié ses chiffres en début de semaine. Une journée cantonale de lutte contre les violences conjugales se tenait d'ailleurs aujourd'hui à Neuchâtel. On en profitera pour se plonger dans cette problématique de notre société. Mais pour l'heure, c'est 18h30, l'heure des infos et le rappel des titres avec Yann Esler. Bonsoir Yann.
Bonsoir. En tennis, Stan Wawrinka va disputer une quatrième finale de Grand Chelem. Le Vaudois a remporté sa demi-finale de Roland-Garros en 5-7 au bout du suspense. Il a dominé le numéro 1 mondial Andy Murray 6-7, 6-3, 5-7, 7-6 et 6-1. Il défiera en finale le vainqueur de l'autre demi-finale entre l'Espagnol Rafael Nadal et l'Autrichien Dominic Thiem. Pour l'instant, Rafael Nadal mène 3-1 dans la première manche. Les magasins VAC situés à La Chaux-de-Fonds ne ferment pas leurs portes. Ce sont les secteurs de la vente par correspondance et de la vente en ligne qui ont été rachetés fin mai par la société fribourgeoise Rensales, qui est active dans le domaine de l'e-commerce. De son côté, la direction de VAC communique que malgré la vente de ce secteur, les magasins de l'avenue Léopold-Robert et de la rue des Créteil continuent leur activité. Actuellement, la société compte toujours une trentaine d'employés. Reka et Tissot s'unissent pour développer le village de vacances de Montfaucon. Le numéro 1 suisse des vacances en famille et l'entreprise basée au Locle ont présenté cet après-midi un nouveau partenariat. Le centre Reka de Montfaucon cumule chaque année 30 000 nuitées. 4 millions de francs seront investis d'ici à 2020. Le chantier d'assainissement du pont du Manège à La Chaux-de-Fonds est lancé. Durant 4 mois, les chemins de fer du Jura sont privés d'accès à la gare de la métropole horlogère. Pour assurer le trafic voyageur, chaque train a dû être remplacé par deux bus. La police cantonale zurichoise a réussi à raisonner le forcené armé âgé de 74 ans qui se barricadait chez lui depuis hier matin. L'homme qui souffre de démence est sorti calmement de son appartement en début d'après-midi après 29 heures de résistance. Le Norvégien Anders Behring Breivik, qui avait massacré 77 personnes en 2011, a changé d'identité. Il est désormais inscrit à l'état civil sous le nom de Fjotolf Hansen, a annoncé son avocat. Enfin, en cyclisme, la sixième étape du critérium du Dauphiné à la Motte-Servolex est revenue au Danois Jakob Fuglsang. Pour demain, les nuages vont laisser la place à un temps bien ensoleillé. Les températures seront estivales entre 7 à 26 degrés au maximum.
Place publique, ça continue. On va parler d'actes qui se passent souvent dans l'intimité des foyers et qui peinent parfois à être dénoncés. On veut parler des violences conjugales, phénomène de société malheureusement important. On en parlait ce vendredi à Neuchâtel à l'occasion de la journée cantonale contre la violence conjugale. En début de semaine, la police cantonale bernoise a également dévoilé ses chiffres 2016 sur les violences domestiques. On va tenter de faire le tour de la question avec Nicole Bohr. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de l'Office de la politique familiale et de l'égalité du canton de Neuchâtel. Vous étiez d'ailleurs intervenante aujourd'hui lors de cette journée cantonale contre la violence conjugale qui réunissait notamment beaucoup de professionnels du secteur. Nicole Bohr, on va commencer avec une tendance. Neuchâtel qui présenterait le taux de violence conjugale le plus élevé de Suisse. Mais selon la police neuchâteloise, le nombre d'affaires traitées est en baisse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il y a plus de violence conjugale à Neuchâtel qu'ailleurs ou alors on en parle peut-être plus qu'ailleurs finalement ?
C'est toujours très difficile de prendre ces chiffres parce que, évidemment, ce sont les chiffres police. Donc, ce sont les chiffres qui sont arrivés à la police et ce ne sont pas du tout des chiffres réels. C'est comme un iceberg. Il y a énormément tout un continent noir sous cette violence qui arrive à la police. Donc, c'est très, très difficile de les interpréter. Et on a une police qui est très efficace. On fait beaucoup de sensibilisation. Donc, on peut imaginer que peut-être il y a plus de cas qui se révèlent qu'ailleurs. Mais, sincèrement, je ne m'hasarderai pas à faire trop de conjectures. Maintenant, pourquoi est-ce que ça a baissé. Là aussi, est-ce que c'est parce qu'il y a aussi un code de procédure pénale qui a changé ? Il y a aussi un certain nombre de choses qui ont changé. Donc, je crois vraiment que ces chiffres, il ne faut pas les prendre à la lettre. Il faut vraiment toujours observer ce phénomène. Il faut voir qu'il y a une sensibilisation. Il y a quand même réellement une information qui passe aujourd'hui. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients qu'un certain nombre de choses, un certain nombre de comportements au sein des familles n'est pas légal, est interdit par la loi. Donc ça, je crois que ça avance et on peut dire aujourd'hui, nous avions justement consacré notre journée à la violence psychologique, c'est encore une violence encore plus discrète et encore plus sournoise, on va dire, que la violence physique, parce qu'elle ne laisse pas de traces.
Et justement, on va en parler tout à l'heure, encore sur ces chiffres de Neuchâtel, on va prendre l'avis de Céline Devet-Kimley, qui est avocate spécialisée. On lui posait la question, plus de violence, est-ce qu'il y a plus de violence à Neuchâtel, ou alors est-ce qu'on en parle de manière plus libérée ? On écoute Céline Devet-Kimley.
J'aimerais bien que ce soit la deuxième solution, en tous les cas. Mais je pense pas que notre canton offre un terreau particulièrement favorable à la violence. Je pense par contre qu'on en parle beaucoup. Hein. Par exemple, ces journées qui sont annuelles et puis qui sont très fréquentées, là il y avait 200 personnes, font qu'il y a un immense réseau, parce que vous avez des assistants sociaux, des éducateurs, des policiers, des psychologues, des éducateurs de crèche, des infirmiers. Enfin, c'est incroyable le nombre de professions qui sont représentées. Moi, je pense pas qu'il y ait plus de violence ici qu'ailleurs. Mais par contre, on a été le premier canton à prévoir cette loi cantonale qui permet à la police judiciaire l'expulsion immédiate d'auteurs de violences conjugales, donc sur la base d'une loi fédérale, mais on a été le premier canton à le mettre en œuvre. Alors on peut des fois être précurseur, puis avoir pour conséquence que dans les statistiques, on apparaît comme le canton où la violence est le plus répartie. Je pense que, en tout cas, par l'intermédiaire de ces journées, on voit qu'il y a un vrai souci à collaborer en tous les membres du réseau. Et c'est ça qui est important. Parce qu'il faut que moi, je comprenne ce que fait le psychologue et l'éducateur et que lui, il comprenne ce que je fais pour qu'on puisse aider la victime.
Nicole Bord, vous parliez tout à l'heure aussi de partie immergée de l'iceberg. C'est une réalité aujourd'hui, le fait que les victimes aient du mal encore à dénoncer les violences dont elles font l'objet?
Oui, bien sûr, c'est encore toujours une réalité parce que c'est évidemment une violence tout à fait particulière puisque vous connaissez très bien l'auteur de violence, vous vivez avec cet auteur en général et puis peut-être même si ça se trouve, vous l'aimez. Donc, et c'est le père de vos enfants ou c'est la mère de vos enfants. Donc, c'est tous ces liens, c'est très compliqué ce type de violence puisque vraiment vous avez un lien avec l'auteur de la violence.
Alors, je parlais tout à l'heure des chiffres de la police cantonale bernoise. Pour 2016, elle enregistre 945 interventions pour des violences domestiques, mais la police est bien consciente que ces cas déclarés sont beaucoup moins nombreux que les cas estimés. Ça veut dire qu'on estime qu'il y a encore plus de violences que ça. Quand on parle de violences conjugales, justement, on pense souvent tout de suite aux coups, aux violences physiques, et on oublie parfois, et c'était justement le thème de la journée d'aujourd'hui à Neuchâtel, aux violences psychologiques, Nicole Bord.
Absolument, et puis c'est aussi une violence qui peut être donc réprimée par la loi, donc il faut le dire, c'est aussi ce dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est évidemment encore plus complexe que la violence physique, souvent les victimes elles-mêmes ne sont pas conscientes qu'on est en train de les détruire, qu'elles perdent leur repère, qu'elles perdent confiance en elles, qu'elles perdent même leur personnalité, et ça c'est encore plus sournois, vous imaginez sans peine. Donc c'est souvent quelque chose de difficile à dénoncer, et puis vous imaginez les tribunaux, et déjà c'est difficile quand il y a la violence physique de faire
reconnaître.
Ouais, c'était très difficile à prouver. Donc, mais ce que nous a très bien dit Céline Devecq d'ailleurs aujourd'hui, c'est que même la procédure, même si elle n'aboutit pas, elle a son importance parce qu'il y a une démarche qui est faite, il y a un message qui est quand même envoyé à l'auteur de dire non, je n'accepte plus, ça n'est pas possible et la loi va met des freins à ça. Et c'est important. Cette procédure est importante aussi pour la victime pour se reconstruire.
Quand on parle de violence psychologique, pour la victime elle-même, c'est peut-être plus difficile à reconnaître qu'un coup, qu'une gifle ?
Bien sûr, évidemment, évidemment. Mais il faut dire aussi qu'il n'y a jamais de violence physique sans violence psychologique. Donc il y a toujours une base de violence psychologique qui peut aller jusqu'à la violence physique, très souvent d'ailleurs, mais il y a toute une violence psychologique qui ne débouchera pas forcément sur la violence physique.
Et puis on a une frontière qui est parfois ténue aussi entre la dispute, j'allais dire, classique du couple et la violence. Finalement, à partir de quel moment on peut parler de violence physique ou psychologique dans un couple? Parce que c'est quand même pas un scoop, tous les couples parviennent des fois à se gronder une fois ou l'autre. On va encore écouter Céline Devecq, qui a une analyse très intéressante là-dessus, entre la frontière, entre la simple dispute et puis le début de violence qui là sort du cadre normal du couple.
Je pense que la violence est due. La psychologue qui intervenait ce matin était excellente d'ailleurs dans sa manière de le présenter. Dans le climat, c'est un changement de climat. Elle le racontait très bien en disant c'est psychose. On sait qu'il va arriver quelque chose, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. On sait que si on ne fait rien, ça va quand même arriver. Si on fait quelque chose, ça va quand même arriver. C'est ce point d'interrogation permanent de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir finalement qui on est et de dépendre uniquement de la bonne ou mauvaise volonté de l'autre dans ses attitudes et son comportement. Et c'est la récurrence du comportement qui va finalement faire que la personne perd toute liberté et adapte tous ses comportements à ce que l'autre attend d'elle. Et puis, les disputes, c'est normal et j'allais dire presque sain dans le couple. Là, ce qui est anormal, c'est le fait que tout dépend d'un individu et de son attitude et que l'autre s'y soumettra petit à petit, aliénant complètement sa propre pensée, sa propre liberté et puis constatant cela des fois des années plus tard.
Intéressant cette notion de changement de climat ambiant finalement qui doit être l'alerte. Nicole Bord, c'est quand même assez difficile à juger ça.
Bien sûr, et puis, mais c'était très juste ce qui a été dit. Anne-Laure Buffet l'a dit ce matin, donc la thérapeute française que nous avions invitée. C'est le climat, elle disait même un climat de terreur. C'est ça qui doit vraiment mettre la puce à l'oreille. Et puis, c'est la répétition et le dénigrement, évidemment. Et c'est d'ailleurs répertorié hein, dans le code civil, dans le code pénal. C'est si on vous injurie de manière répétée, si on vous casse vos objets, si on vous contrôle, si on vous empêche de sortir. La violence économique est aussi une violence psychologique, c'est-à-dire on vous empêche d'avoir accès à un certain nombre aux revenus. On vous empêche on vous contrôle les tickets de caisse ou des choses comme ça qui sont reconnues comme de la violence. Mais c'est vrai que c'est la récurrence. Et puis, donc, c'est ce qui devrait alerter quand même les victimes. Et puis, c'est ce climat, tout à coup, on ne fait plus rien sans avoir peur de la réaction de l'autre.
Mais parfois, ça met longtemps à être dénoncé. Je vous donne quelques exemples qu'a donné la police cantonale bernoise. Une victime a, par exemple, affirmé avoir été battue violemment tous les 3-4 mois pendant environ 14 ans, avant justement de le dénoncer. Ou encore ce couple qui a parlé de 3 à 4 accès de violence mutuelle par semaine sur une période d'environ 8 mois. Donc c'est un peu plus court, 8 mois, que 14 ans, mais ça fait quand même beaucoup quand on parle de 3 à 4 fois par semaine. Et au milieu de tout ça, parfois, Nicole Bohr, il y a des enfants. Ça aussi, c'est un vrai traumatisme. Il y a des enfants qui voient, qui entendent.
Absolument. On dit aujourd'hui d'ailleurs que ce sont des victimes directes. On parlait avant de victimes indirectes, mais maintenant on n'ose plus ce terme. Ce sont vraiment des victimes directes. Ils apprennent finalement la violence, ils apprennent ces comportements, et ils ont tous les risques de reproduire cela plus tard ou d'avoir des troubles psychiques très importants.
Devant des tribunaux, ces enfants peuvent être témoins ou alors on les utilise de manière indirecte, c'est-à-dire quand ils parlent à leur instituteur, aux gens desquels ils sont proches.
Ils peuvent intervenir aussi dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et puis évidemment, c'est ce qu'on a aussi dit aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit au début, il y a tout un réseau qui existe hein, autour des familles, autour de ces couples violents. Et puis c'est vrai que les enfants ne sont pas oubliés. On a toujours l'Office de protection de l'enfance, on a toujours l'APEA qui intervient. Donc on a vraiment tout un réseau qui prend toute la famille dans son giron.
Ce réseau de spécialistes, justement, des questions de violence conjugale, c'est nouveau ou alors ça existe depuis longtemps ou au contraire, on l'a mis en place finalement récemment parce qu'il y a un phénomène de société qui est là?
Alors, on peut dire que la loi qui date de 2004 dans le canton de Neuchâtel a donné comme mandat à l'Office de la politique familiale et de l'égalité de coordonner la lutte contre la violence conjugale. Donc nous, ça fait 6-7 ans que l'on organise chaque année une journée du réseau, et c'est bien le but de cette journée, avec un thème particulier à chaque fois, mais c'est vraiment de mettre les acteurs autour d'une table, de mettre, là c'était dans une salle, puisqu'ils étaient plus de 200, mais vraiment de mettre les gens en lien, et que les gens sachent, on fait chaque fois une présentation aussi des acteurs du réseau, que les gens sachent à qui s'adresser. Et ça a été répété plusieurs fois cet après-midi. N'hésitez pas à prendre vos téléphones. Maintenant, vous voyez la personne qui, à la vie, par exemple, s'occupe des violences faites aux femmes. Vous voyez la personne de Solidarité Femmes. Vous voyez la police. Vous voyez la justice. Et vous n'hésitez pas à appeler les gens qui sont en charge de cette problématique pour demander, pour poser des questions, pour demander qu'est-ce que je fais dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment de la violence, est-ce que je dois intervenir, etc.
Nicole Bohr, je voudrais juste qu'on termine sur la question des peines. Comment la justice réagit face aux violences conjugales? Écoutez l'avis de Céline Devecchimli et puis on en parle après.
Ça aurait des peines finalement assez faibles. J'allais dire, c'est pas là l'intérêt. Que l'auteur soit condamné ou pas, par exemple, par un jugement pénal, c'est pas ce qui va faire avancer la victime, de toute façon pas. Ce dont elle a besoin, elle, c'est d'être protégée à un moment X, le plus vite possible, du moment où elle parle. Si on se place du point de vue de la victime, quelle que soit la condamnation, ça ne réparera rien. La victime doit déjà accepter d'être une victime. Ensuite, elle doit se construire avec ce constat-là, et puis arriver à sortir de ce constat pour revivre. Donc ça passe pas par le droit. La justice n'est qu'un petit instrument qui vise à protéger, dans l'urgence surtout, les personnes qui peuvent être atteintes dans leur personnalité.
Nicole Bohr, vous êtes d'accord avec ça? Finalement, le poids de la peine, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Des fois, c'est vrai qu'on s'insurge, on se dit quoi, il a fait ça, et il a une peine aussi faible que ça. Et là, Céline Devecchimli nous dit finalement, c'est pas ça qui est important.
Non, parce que ça peut même être frustrant pour la personne, bien sûr. Non, mais elle a très bien dit aussi ce matin, il y a deux pans. Il y a la justice, mais elle ne peut pas tout réparer. Et puis, de l'autre côté, il y a la psychothérapie. Et il y a les psychologues qui peuvent vraiment prendre en charge ces personnes victimes et les aider à se reconstruire. Elle l'a très bien dit, il y a vraiment les deux volets qui doivent avancer. Moi, je trouve que ce qui est très important quand on parle de la loi et quand on parle de la justice, c'est que le message est clair. Et c'est ça qui est le plus important. C'est de dire non, ça, ce n'est pas légal. Vous ne pouvez pas faire ça.
Mais elle ne doit pas un moment montrer l'exemple en étant un peu plus sévère, la justice?
Oui, mais c'est toujours difficile parce qu'ici, il s'agit de... C'est peut-être une seule fois, c'est peut-être quelqu'un qui n'a absolument pas d'antécédent. Ensuite, il y aura des jours amendes, vous savez bien comment ça se passe. Et là, les jours amendes seront payés par toute la famille. C'est le même budget. Donc, vous voyez que c'est... On ne peut pas attendre de la justice, et je crois que dans bien des domaines, c'est la même chose. On ne peut pas attendre de la justice qu'elle règle tous les problèmes entre les personnes.
L'heure tourne. Nicole Bord, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes, je rappelle, chef de l'Office de la politique familiale et de l'égalité à Neuchâtel. Merci d'avoir été avec nous dans Place Publique. Très bonne soirée.
Merci, bonne soirée à vous aussi.
Merci, et tout de suite on file sur les courts. Et oui, on va parler tennis forcément. Comment y échapper alors que Roland-Garros s'achève ce week-end et Stan Wawrinka est en finale? Il a battu tout à l'heure Andy Murray en 5-7 et il sera opposé dimanche soit à Rafael Nadal, soit à Dominic Thiem.
Place Publique.
On approche en effet à grands pas de la fin de la quinzaine Porte d'Auteuil et les Suisses sont cette année encore sur le devant de la scène à Roland-Garros. Demi-finale pour Timea Bachinski, un parcours encore incroyable pour Stan Wawrinka. Et pourtant, il n'y avait que trois Helvètes en début de tournoi. Et pourtant, Roger Federer, la locomotive du tennis suisse, n'était pas là. Mais la Suisse est là, costaud, avec de bons résultats. Et ça donne forcément le sourire à Alessandro Greco qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alessandro, vous êtes directeur du sport élite à Swiss Tennis. On va tenter avec vous d'expliquer comment la Suisse, ce petit pays finalement qui compte peu d'athlètes engagés dans ce tournoi, eh bien, parvient à cultiver cet ADN de champion. On va d'abord partir d'un constat. Timea Bachinski en demi-finale, elle a été défaite en 3-7 face à l'étonnante lettonne Yelena Ostapenko. Stan Wawrinka qui confirme encore sa capacité à répondre présent lors des grands tournois. On peut dire, Alessandro, que ça reste une grosse performance pour un petit pays comme la Suisse?
Oui, c'est absolument vrai. On est très, très contents. On est très, très surpris aussi parce que quand même, il y a des années que les joueurs suisses jouent très, très bien. Ils font une publicité incroyable pour le tennis suisse. Et on est très contents pour tous ceux qui aiment ce sport magnifique.
Alors on voit encore cette année à Roland-Garros que même sans Roger Federer, qui était toujours celui qui tirait la Suisse vers le haut et puis qui vraiment hissait haut les couleurs du pays, ben même sans lui, il y a de bons résultats. Ça veut dire que la Suisse, elle possède une vraie marque de fabrique pour faire éclore de très bons, voire de grands joueurs et joueuses?
Oui, je pense ces dernières années, on a toujours eu des grands champions. Je pense qu'on a aussi des bons joueurs. Beaucoup de fois, quand on a beaucoup de champions, on oublie que il y a aussi d'autres joueurs qui jouent bien, comme Henri Laaksonen, qui va être bientôt dans les top 100. Mais c'est clair, c'est les grands champions qu'on voit tous les jours à la télé. Ce sont ceux qui font vraiment une grande pub pour nous tous. Mais je pense il y a aussi le côté, il faut avoir beaucoup de chance. Mais je pense qu'on a aussi en Suisse des très bonnes structures pour bien faire.
Alors justement, j'allais y venir, comment on l'explique cette réussite sur seulement trois athlètes en début de tournoi, parce qu'en plus de Stan et de Timea, il y avait également Victoria Golubic. Comment on explique que sur trois athlètes, on arrive à faire quasiment un carton plein, excepté Golubic qui a été éliminé dès le premier tour?
Ouais, ça serait bien de pouvoir l'expliquer ou bien faire un bon concept sur ça. Je pense que Stan... il a quand même bien joué cette année et il était de plus en plus en forme. Il a bien joué à Genève et on sait bien que quand il y a le Grand Chelem, quand c'est très important et quand on joue à la meilleure des 5-7, Stan est très très fort. Je pense que sur cette dernière finale, il en a gagné 3. Donc vraiment, c'est incroyable la performance. Timea, elle a pas super super bien joué cette année, mais quand même, elle est devenue de plus en plus forte. Elle s'est bien entraînée ces dernières deux semaines à Vienne. Et on la voyait vraiment très, très forte aussi hier en demi-finale. Elle a perdu, mais elle a perdu vraiment contre une joueuse qui a très, très bien performé hier.
Justement, si on essaye de rentrer dans les explications concrètes pour tenter d'expliquer cette réussite, vous, Alessandro Greco, vous êtes directeur du sport d'élite à Swiss Tennis. Ça veut dire que vous avez notamment en charge les juniors pour les faire éclore jusqu'au monde professionnel. Cette réussite, ça veut dire quoi? Qu'on a une formation qui est très très bonne? On a des vraies capacités dans ce domaine-là?
Oui, bien sûr. La première chose, c'est on a un petit pays, donc on a des distances qui sont pas très longues. On se connaît, c'est une famille de tennis en Suisse. Ça aide beaucoup. On travaille vite, on est très flexible. Après, il faut savoir qu'on a en Suisse 900 clubs, environ 900 clubs. Donc, c'est-à-dire, tu peux aller en vélo, tu prends ton vélo, tu peux aller de club à club. Il y a ces distances qui sont très courtes. Après, on est quand même un pays assez riche en général. Et le tennis, c'est quand même un sport qui est un petit peu cher aussi. On a des bons entraîneurs. Donc, en Suisse, les entraîneurs, ils peuvent bien gagner sa vie. Donc, le pays, il est bien pour avoir des bons entraîneurs. Et après, on a aussi des modèles comme Rog, comme Stan, comme Günthardt, comme beaucoup d'autres joueurs. Et ça aide beaucoup les jeunes.
Ça veut dire qu'on n'a pas seulement actuellement une génération dorée. On a quelque chose aussi de technique derrière qui nous permet de garantir ces bons résultats.
Je pense qu'il y a une très bonne structure. Il y a pour un joueur qui est jeune, qui a vraiment la volonté de travailler et qui a du talent, il a sûrement dans chaque canton la chance de bien pouvoir s'entraîner. Après, il a aussi la chance de aller sur l'individuel ou bien de venir à Bienne où on regroupe les meilleurs juniors suisses.
J'aimerais qu'on tente une comparaison avec la France, parce que bon, notamment Roland-Garros se passe en France et du coup c'est un plus grand pays où il y a plus de licenciés, il y a toujours beaucoup de joueurs français au départ de Roland-Garros, mais à chaque fois, année après année, on constate que ça fait pchit. Finalement, qu'est-ce qu'on fait de mieux qu'eux, par exemple ?
Bon, c'est difficile à dire. Je pense que le rôle d'une fédération, c'est de ramener beaucoup de juniors, de les former et de les ramener dans les top 200 du monde. Là, c'est vraiment quelque chose qu'une fédération peut contrôler. Après, les grands champions, c'est très difficile à former. La France, elle a quand même actuellement 11 joueurs dans les top 100 ATP. Elle a 5 joueuses dans les top 100 WTA. Donc, c'est un pays qui est très, très fort. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent très, très bien. C'est clair, il leur manque le grand champion comme Rog, comme Stan actuellement, mais je pense pas qu'on travaille mieux qu'eux, mais je pense qu'on est on travaille d'une manière très efficace tous les jours.
Alors Alessandro, je vais volontairement essayer de prendre un petit peu le contre-pied de ce qu'on vient de dire, parce que là on est dans l'euphorie, on se réjouit des bons résultats, mais est-ce que finalement il faut s'en réjouir ? Parce qu'on est aussi tenté de penser la chose suivante, aujourd'hui ça marche parce qu'on a Bachinski et Wawrinka, ils sont quasiment les seuls Suisses à très haut niveau, mais vu que les résultats sont là, on est content et ça va, mais demain quand ils ne seront plus là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on aura une relève ?
Bon, il y a quand même Belinda Bencic qui a 19-20 ans, qui joue très bien, qui a été top 10 mondial. Elle est blessée maintenant, mais elle va rentrer. Il y a Victoria Golubic qui est jeune. Il y a Rebecca Masarova qui a gagné Roland-Garros des juniors l'année passée. Il y a Jill Teichmann qui a 20 ans, qui est dans les top 150. Il y a quand même Henri Laaksonen qui joue bien. Et après, il y a aussi des jeunes à 15-16 ans qui jouent bien. Ils sont entre les meilleurs en Europe, mais c'est un chemin tellement long qu'on ne peut pas prévoir ce que ça va donner.
Ça veut dire que vous n'avez pas peur d'une période de disette après avoir vraiment connu les sommets dans les années 2000 et 2010 ?
Non, j'ai pas peur du tout, mais c'est clair que ça sera très difficile de produire un joueur comme Rog ou comme Stan. C'est presque impossible, donc je suis très relâché. On fait ce qu'on peut, on travaille. On continue à bien travailler, à s'améliorer, mais c'est clair que ça va être très très difficile de reproduire des champions comme Rog, comme Stan.
Alessandro Greco, est-ce que dans le monde du tennis à l'international, on parle d'un modèle suisse ? Est-ce qu'on commence à devenir un exemple ?
Je pense qu'on est un exemple. Je pense que les pays autour de nous, ils sont vraiment... ils sont à regarder, ils nous posent des questions, comment nous on fait tout ça. C'est clair, une fédération, elle cherche toujours de faire une structure, un concept, mais le tennis, c'est quelque chose de très fin, de très subtil. C'est très difficile à le mettre dans un concept. Donc, si on pourrait le mettre dans un concept, les pays les plus riches, ils auraient beaucoup plus de succès, comme l'Angleterre, comme la France, comme l'Australie, etc. Donc, je pense que on travaille très bien et on va aussi très bien travailler dans le futur, mais il faut quand même avoir beaucoup de chance dans la vie aussi pour bien faire.
Et pour vous, c'est ce qu'on a en ce moment, de la chance ? Il faut aussi que le public suisse s'en rende compte pour pas qu'il soit peut-être trop exigeant à l'avenir ?
Absolument. Il faut vraiment se régir de chaque moment, de chaque demi-finale, parce qu'il y a 128 joueurs dans le main draw d'un grand chelem, et on a toujours ou presque toujours quelqu'un qui entre dans les quatre derniers joueurs. Donc on est très très content et il faut vraiment savourer chaque minute.
Un dernier petit mot, Alessandro Greco, sur Stan Wawrinka, parce qu'on l'a encore vu durant cette quinzaine à Roland-Garros, porte d'Auteuil. Il a affiché un très bon niveau de jeu, un niveau de jeu qu'on ne voit pas toujours aussi bon dans les tournois un petit peu plus mineurs. On pense notamment aux Masters. Comment on peut expliquer cette différence de jeu chez Stan?
Bon, Stan, il a beaucoup de talent, il travaille très dur, il travaille bien, il se prépare pour les grands tournois. C'est clair que des fois il joue pas si bien que ça, ou bien il arrive pas à 100% de son potentiel, mais bon, c'est normal. Je pense que à la fin de chaque année, on a joué peut-être 50 matchs, 70 matchs. Après là, on met un trait et on regarde ce qu'on a fait. Et en fait, lui, il est dans les quatre premiers joueurs au monde. Donc, il fait tout juste, je pense, ou presque tout juste.
Et finalement, c'est aussi le point fort d'un sportif de savoir arriver très en forme dans les très grands rendez-vous.
C'est ça. C'est absolument ça. C'est aussi le mental qui compte. Et là, je pense que Stan, il a vraiment fait très très bien ces dernières années. Il est devenu un grand champion et vraiment un chapeau à tout ce qu'il a fait.
Merci beaucoup Alessandro Greco d'avoir été notre invité dans Place Publique. On vous souhaite bonne continuation avec Swiss Tennis, et puis en espérant que nos Helvètes fassent encore le show durant quelques années.
Merci à vous et à bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
C'est la fin de Place Publique, mais si vous avez raté un bout de l'émission ou si vous voulez la réécouter tout simplement, pas de problème, vous la retrouverez en podcast sur notre site internet dès ce soir. Et on n'oublie pas aussi sur les applis pour smartphone, les applis RTN, RFJ, RJB. C'était Jérôme Moutet à la réalisation, merci à lui. Et dans quelques minutes, il sera 19h, ce sera le temps des infos avec Léandre Béret. Très bonne soirée, bon week-end et à bientôt.
Place Publique.